Chapitre 77. Les Jekyll et Hyde avaient toujours existé, ils n'appartenaient pas qu'à la science-fiction. Charcot avait découvert que l'un des cas les plus célèbres était sans doute celui de la patiente hystérique Bertha Pappenheim, souvent présentée sous le nom d'Anna O. La première des personnalités de cette femme ne parlait qu'anglais et était paralysée du bras droit. L'autre n'avait aucun problème physique et s'exprimait en allemand, en français ainsi qu'en italien. Pappenheim avait laissé deux testaments derrière elle, chacun rédigé d'une main et d'une écriture différente. Et que dire de Sybil Dorset, une américaine aux 16 personnalités qui avait passionné les psychiatres de tous les pays dans les années 60. Dans son petit monde intérieur, certaines personnalités se croyaient seules, d'autres étaient au courant des moindres faits et gestes de leurs alter-ego. Ces troubles résumaient l'incroyable complexité du cerveau humain, et Frank était loin d'avoir tout saisi. Il se tenait debout devant le tableau du 514. Désormais, il allait falloir mettre des mots sur ce micmac pour finaliser les rapports, et pour un esprit structuré comme le sien, ce n'était pas simple. Ses coéquipiers, installés à leur bureau, produisaient eux aussi de la paperasse qui irait s'entasser dans d'énormes classeurs, qui finiraient à leur tour entassés sur des étagères d'archives. Le bruit des barres de lettres venant heurter les rouleaux des machines à écrire donnait l'impression d'être dans la rédaction d'un journal. Ça faisait 2 jours que Julie Lescure s'était donné la mort dans un entrepôt de Saint-Ouen qu'elle louait pour stocker son matériel. Florence avait expliqué que c'était bien David qui avait noyé Albert Lagarde, mais que c'était Circé qui avait fourré le canon du revolver dans sa gorge et appuyé sur la détente. Le seul moyen de mettre enfin un terme aux horreurs de son frère. Car c'était sans aucun doute possible David qui avait tout organisé, qui les avait guidés, eux, les flics, jusqu'à lui. Parce que, au fond, peu importait qu'il se fasse prendre, tant que la vérité éclatait et que ceux qui avaient détruit sa vie payaient. Les flics ignoraient encore à ce stade quand le mental de Julie Lescure s'était fracturé au point d'offrir à David, son jumeau décédé dans l'incendie, une telle place. Pour ça, il leur faudrait creuser du côté de l'hôpital psychiatrique où elle avait passé une partie de son adolescence. En revanche, on avait trouvé, lors de la perquisition au domicile de Circé, tout ce qui avait été nécessaire au grimage. Des boîtes de lentilles de couleur noire, ainsi que des bandages élastiques pour faire disparaître la poitrine, étaient notamment cachés dans une armoire de la salle de bain. Le dressing de la chambre était, quant à lui, divisé. Les vêtements pour femmes d'un côté, ceux pour hommes de l'autre. C'était donc là-bas, dans le logement d'Ivry-sur-Seine, que David se manifestait. Il surgissait, se déguisait, puis il allait vivre sa vie à l'autre bout de Paris. À quelle fréquence sortait-il de sa tanière? Pendant combien de temps prenait-il les commandes? Des jours? Des semaines entières? Pourquoi Circé, quand elle était elle-même, ne se débarrassait-elle pas de tous ses accessoires? Acceptait-elle la présence de David, ou était-ce simplement pire pour elle si elle tentait de le refouler? Enfin, où était-elle lorsqu'il tuait et torturait ses victimes? Avait-elle eu pleinement conscience des actes de son alter? L'avait-elle vu agir? Tant de questions demeuraient. Frank traça un trait vertical sur une feuille, et pour essayer d'y voir plus clair, nota à gauche tout ce qui concernait Circé, à droite tout ce qui concernait David. D'une part, David le serrurier, le locataire de l'appartement collé au rail, l'homme pervers et dangereux qui les avait traqués. De l'autre, Circé la magicienne, vivant à Ivry, employée nocturne du millionnaire, subissant les incursions psychologiques de son alter dominant. Charcot poussa un soupir. Il se demanda comment aurait pu être jugé un cas d'une telle complexité aux assises. Coupable? Irresponsable? Mais pouvait-on parler d'irresponsabilité avec un pareil degré de préméditation? Et qui le jury aurait-il eu face à lui? Circé? David? Les deux? Il retourna à sa place dans son courant d'air qui le faisait frissonner chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte. Il glissa des pages vierges dans sa machine et se mit à rédiger. Pas mécontent que cette enquête soit terminée. Il allait enfin retrouver un rythme de vie normal, profiter de ses week-ends avec Suzanne avant qu'elle ne s'installe définitivement avec lui, essayer de lui faire aimer cette ville qui lui réserverait vraisemblablement de nombreuses autres affaires compliquées et sordides. Combien de temps tiendrait-il la route? Il l'ignorait. Mais ce qu'il savait en revanche, c'était que le combat serait difficile, et qu'il ne faudrait jamais cesser d'être vigilant, car les monstres se tapissaient souvent là où on s'y attendait le moins. Il observa Serge. Celui-ci fumait sa dernière clope de la journée, celle qu'il se grillait toujours avant de quitter la brigade criminelle. Pour ce rituel, il s'enfonçait systématiquement sur sa chaise, les pieds croisés sur son bureau, contemplant le plafond, la tête renversée. Peut-être percevait-il, dans la lumière crue des néons, la danse macabre de ses fantômes. Quelques minutes plus tard, le vieux flic écrasa son mégot dans son cendrier trop plein qu'il vida dans sa poubelle. Puis, comme tous les jours, il rassembla ses feuilles, referma ses pochettes cartonnées et ouvrit le tiroir de son caisson. Frank put alors voir les traits de son visage passer d'une apparente tranquillité à l'effroi le plus total. Son coéquipier se rassit, sortit d'un geste lent une photo. Il la fixa de longues secondes, les os de ses mâchoires roulant sous sa peau, puis tourna la tête vers lui. Leurs yeux se rencontrèrent. Jamais Charcot n'avait décelé tant de détresse dans un regard. Ce que Serge tenait dans sa main, c'était le Polaroid prêté par le concierge. Avant qu'Amandier fasse quoi que ce soit, le numéro 6 du groupe se leva, attrapa son blouson et se dirigea vers son collègue. Sans un mot, il déposa sur son bureau une boîte qui ne contenait qu'une seule allumette, puis fit demi-tour, lâchant un vague « à lundi », au moment où il franchissait la porte. Serge allait brûler la photo. Charcot avait payé sa dette envers lui. Dehors, il trouva une infecte mélasse de neige fondue, mêlée à un vent glacial. Le jeune flic enfila son bonnet, remonta son col mouton, glissa les mains dans ses poches et courut rejoindre Suzanne, qui l'attendait à l'abri, sous l'arche du palais de justice, emmitouflée dans une grande écharpe rouge. Il la serra contre lui et l'embrassa longuement. Dans ses bras, il n'avait plus froid. Un beau week-end en amoureux se profilait, enfin. Ensemble, ils traversèrent le carrefour et s'engagèrent sur le pont Neuf, laissant derrière eux l'implacable arène du 36, quai des Orfèvres.